19h-20h. Et les informés avec Adil Farkan sur Beur FM.
Eh bien bonsoir, bonsoir à tous, on est vendredi, vendredi, qui dit vendredi dit fin de semaine. Quel plaisir de vous accompagner. Vous le savez dans les informés, eh bien vous connaissez par cœur son ADN. Commenter, analyser, mais surtout décrypter l'actualité. Alors au menu ce soir pour évidemment clore cette semaine et démarrer un très bon week-end. Trois sujets qui ont retenu notre attention, que je vous propose, qui seront débattus tout à l'heure et commentés par nos débatteurs. Et oui, qui seront avec nous. Alors beaucoup de retard parce que c'est un peu le, comment dirais-je, pardonnez-moi la trivialité, mais le bordel dans les transports en commun. Ouais. Emmanuel Dupuis, notre débatteur influenceur, est coincé. Amil Triette est coincé. Tout le monde est coincé. Bon, c'est ça, hein. C'est ça. Il y a la voix qui doit être entendue. Les trois sujets, Anne Hidalgo qui est triste, Ségolène Royal, sur ses mots sur Mélenchon. Ça y est, est-ce que la guerre est déclarée? C'est ce qu'on tentera de comprendre tout à l'heure et je vous entendrai vous aussi. Ensuite, après, qu'est-ce qu'il est devenu ce convoi de la liberté? Franchement, c'est vrai. On a l'impression qu'il a fait pchit, parce qu'il y a eu des arrestations qui ont été jugées arbitraires, des absences de perspectives claires. Est-ce qu'il n'y a pas là un découragement? On en parle tout à l'heure. Rachida Dati, oh, elle est vénère. Ah oui, je parle verlan. Elle est ulcérée par Valérie Pécresse. Vous savez ce qu'elle dit? Mais moi, je m'appelle Rachida. Est-ce que je suis une femme de ménage? Elle n'a pas tort. Ben, on en parle tout à l'heure. Y compris vous, je voudrais vous entendre au 01 53 48 3000. Justement, pour venir commenter l'actualité avec nous. L'invité du jour aujourd'hui, nous allons parler d'un tout nouveau magazine qui commence à faire le buzz. Il s'appelle Liberty Mag. Je l'ai lu, je dois dire, respect. On va en parler tout à l'heure justement avec la fondatrice. Deux billets d'humeur aujourd'hui. Pascal Boniface qui nous rentre d'Afrique, qui arrive d'Afrique justement. Il va nous faire son petit billet d'humeur. Et puis Michel Taube, comme chaque vendredi. Voilà, alors on ne sait pas aujourd'hui s'il va nous faire un coup de gueule ou un coup de cœur. Bon, on verra son ambiance, son humeur. Enfin, je connais son sujet d'avance quand même. Mais je laisse quand même le soin, évidemment, de cette étincelle du direct, du live. Ça y est, j'ai tout dit, je crois que c'est le menu. Hein. Et je crois qu'il est complet, il me semble, hein, Giovanni. Oui, il est complet. Allez, les informés, c'est tout de suite, c'est maintenant. Il connaît la chanson, Giovanni. Et en toute liberté de presse.
Beur FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Bah, c'est pas en toute liberté de presse. Tu m'as secoué là. En toute liberté d'expression. Voilà, merci. L'invité du jour.
Les informés, l'interview.
L'interview, c'est avec Christelle. Christelle, bonjour.
Bonjour Adil.
Bonjour, comment ça va ma chère Christelle?
Eh ben, ça va bien, on est deux en fait, les deux fondateurs de Liberty Mag.
Il y a Christelle Cronier.
Et
Fed. Et Fed, son nom de famille?
Zaïd.
Fed Zaïd. Christelle Cronier, vous êtes deux. Bonjour, bonsoir Fed.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Bonsoir, faut bien parler devant le combiné de votre téléphone parce que sinon, vous allez être inaudible à l'en direct. Alors dites-moi, ma chère Christelle Cronier, on se connaît quand même. Vous êtes dans le milieu de la presse, vous l'avez aussi y compris dirigé à un moment. Vous avez décidé de vous lancer dans une aventure qui est complètement folle. Folle dans le bon terme, évidemment, c'est pas péjoratif. Quand je dis folle, parce que, justement, vous avez créé, fondé avec Fed un tout nouveau magazine qui parle de diversité, qui plante assez bien son ADN concernant cette France multiplurielle. Le magazine s'appelle Liberty Mag. Comment est né ce projet, Christelle et Fad?
C'est simple, en fait. On se rend compte qu'aujourd'hui, tout le monde cherche un petit peu à monter les uns contre les autres. Ah. Et nous, on avait envie d'une autre France, on va dire. Et donc, on avait envie de traiter l'information sous un autre angle et de donner la parole à tous sans distinction et de faire passer en fait tous les sujets de société sous l'angle humain, non pas sous l'angle ni politique ni philosophique, mais vraiment à hauteur d'homme.
À hauteur. Et Fad, on a le sentiment qu'aujourd'hui, évidemment, concernant cette ambiance parfois qualifiée de délétère, est-ce qu'il a sa place justement, alors qu'on parle d'un aujourd'hui hein, de la presse, la presse écrite en général, qui ne connaît pas forcément, qui est plus du tout en vogue, parce que l'arrivée des réseaux sociaux, reconnaissons-le, est venue aujourd'hui, évidemment, occuper l'espace. Comment un magazine comme le vôtre, ma question est très claire, peut contribuer à exister dans le paysage de la presse écrite?
Alors, justement, nous, là, on s'est rendu compte que par rapport aux réseaux sociaux, il y a énormément de fake news, et les fake news passent plus facilement. Donc nous, on s'est dit, on repart sur le fondamental, c'est-à-dire les magazines, la presse écrite, le toucher, le papier, et voilà. Donc on sort là-dessus.
Et puis surtout,
Christelle Grenier.
Oui, nous surtout, c'est comme Mark Twain en fait. Quand on nous dit que c'est impossible, on a envie de le faire. Et là, on avait vraiment envie on pense que les gens sont réceptifs à des choses authentiques et libres d'expression, sans filtre en fait. Parce qu'aujourd'hui, de tout ce qu'on voit sur les plateaux, c'est pas forcément c'est plutôt des batailles d'experts plutôt que de montrer vraiment ce qui se passe. Vraiment,
alors justement, parlons-en. Liberty Mag, c'est un bimensuel ?
Bimestriel.
Bimestriel. Premier numéro qui est sorti, qui est dans les kiosques. Alors, quelle est l'orientation politique de ce magazine ?
Aucune.
Alors justement, nous, on reste sur Liberty Mag, on reste vraiment neutre. On ne porte pas de jugement et d'intérêt politique.
On confronte en fait, si vous voulez, les points de vue pour trouver des solutions objectives et productives. Et ce qui est important pour nous, c'est vraiment la prise de recul et les regards croisés sur des thématiques de fond, sur des sujets de société qui touchent tout le monde dans le quotidien. Hein, puisque là,
parce que c'est une première. Moi, je vous avoue que quand j'ai lu le magazine, effectivement, on lit, il y a pas mal d'interviews autour de, évidemment, de la question de la représentativité, y compris de cette représentation nationale, y compris de la diversité. Et puis, soudainement, on tombe sur Jean-Marie Le Pen. C'est vrai qu'on se dit, qu'est-ce qu'il fait là aussi? Est-ce que vous pouvez nous expliquer, évidemment, ce positionnement?
Ben oui, il a des choses à dire. Enfin, vraiment, ce qu'on veut, c'est prendre les points de vue d'un côté, c'est-à-dire, là, en l'occurrence, le thème était là, donc la France est-elle discriminante. Donc l'idée, c'était d'aller voir des personnes qui ont été discriminées, de leur dire, qu'est-ce qui t'arrive à toi, alors voilà. Ensuite, de l'autre côté, aller voir des personnes dites discriminantes, à qui on demande, pourquoi tu lui fais ça? qu'est-ce que ça vient chercher chez toi? Qu'est-ce que ça évoque comme peur? Pourquoi en fait se comporter de cette manière-là, chercher à comprendre vraiment d'un côté et de l'autre sans jugement aucun, et puis ensuite de se dire comment est-ce qu'on pourrait faire pour mieux vivre ensemble, pour trouver des solutions, pour avancer et aller vers justement le mieux vivre ensemble. Hein.
Le mieux vivre ensemble, c'est aussi, vous avez toute une série, votre magazine, c'est quoi? C'est une série d'interviews ou c'est aussi des enquêtes? C'est aussi, par exemple, le reflet de cette nouvelle société française?
C'est tout un mélange, vraiment. Toujours sous cet angle, traiter l'information sous l'angle humain. Et puis montrer aussi des personnalités qui sont inspirantes. Ensuite, parce qu'on a un deuxième volet ça va être l'entrepreneur inspirant, l'histoire inspirante, on a une partie écologie, avec plein d'intervenants. Par exemple, on parle de Bertrand Badré, un homme d'affaires pas comme les autres, qui met la finance, c'est pas financier, hein, il met la finance au service de l'humain. On termine aussi par des recettes. Donc c'est quand même beaucoup plus.
Christelle et Fad, qu'est-ce que vous voulez quand on lit, quand on découvre évidemment votre magazine, qu'est-ce que vous avez envie de transmettre comme message principalement? J'imagine qu'il y a dans cette orientation des messages que vous voulez glisser.
Alors, Fad. Le message, il est simple. Oui, le message, il est simple, c'est l'ouverture. Et l'ouverture à l'autre, la communication et le partage éventuellement. Si chacun reste ses points de vue et s'enferme sur ses points de vue, on n'y arrivera pas. Donc vraiment, le but, c'est de s'ouvrir aux autres. C'est pour ça qu'on est parti interviewer Jean-Marie Le Pen, Jean Messia.
Majad Vollaud-Belkacem, Bruno Pomard, Tim Bellachour.
C'est vraiment...
Très divers.
Voilà, exactement. C'est vraiment l'ouverture d'esprit et de dire, il faut impérativement, pour pouvoir comprendre les problématiques de chacun, c'est de s'ouvrir finalement au monde, c'est de s'ouvrir aux gens et de comprendre pourquoi.
Et c'est ce que nous dit d'ailleurs Rachid Embarki, qui a signé notre tribune.
Le journaliste de BFM TV, oui.
Exactement. Et RMC Story, et qui en fait vient nous retrouver en nous disant ce qu'on veut justement faire passer, c'est-à-dire que tout le monde se recroqueville au lieu de s'ouvrir, et que on doit aller vers le partage, réapprendre à ouvrir sa porte, à discuter, à comprendre l'autre. Voilà.
Alors d'ores et déjà, si j'ai compris Christelle et Fad, on a d'ores et déjà rendez-vous avec le prochain numéro.
Et oui, le prochain, il sera consacré au Covid, mais sous un angle un peu différent de ce que qu'on a l'habitude de voir.
Oui, c'est-à-dire
Alors, on ne veut pas trop en dire, parce qu'il sort le 1er mars, mais ce sera vraiment toujours sous l'angle de l'humanité et de l'humanisme.
De l'humanité et de l'humanisme. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à celles et ceux qui vous écoutent partout en France, Fad et Christelle?
Faites la paix.
C'est vrai, on en a besoin.
C'est vraiment s'ouvrir à l'autre, s'ouvrir aux gens et aller vers les gens. Surtout, c'est aller vers les gens et voilà.
Ah, c'est oser aller vers l'autre en fait, parce que en fait, quand on va vers l'autre, on découvre des gens complètement différents. Voilà, on a tourné un documentaire sur le même sujet qui s'appelle La France. Enfin, La France est-elle discriminante? Et pour ce documentaire, je suis allée tourner, par exemple, à Trappes. Et c'est vrai que je voyais dans les... moi, personnellement, je ne connaissais pas la cité à Trappes, et je voyais un petit peu partout que c'est hyper dangereux, etc. Voilà, je suis allée à la limite avec ma Kalachnikov. Et en fait, on a rencontré que des gens chouettes, ouverts, qui au contraire avaient envie d'échanger. Donc c'est vraiment aller contre les idées reçues, les idées préconçues, et aller faire sa propre opinion par soi-même.
Liberty Mag compte s'inscrire durant cette campagne, Christelle et Fad, cette campagne présidentielle.
Alors on interviewe évidemment beaucoup de politiques aussi pour confronter les points de vue. Et ce sera notre façon de nous inscrire dans cette campagne présidentielle, c'est-à-dire de montrer les points de vue de chacun des politiques, mais toujours sous l'angle humain, et de reconsidérer certains sujets, comme par exemple là, le Covid avec les provax, antivax, etc., sous un autre angle.
Christelle et Fad, dernière question. Justement, Liberty Mag, c'est en deux versions, numérique et papier.
Exactement, c'est sur toutes les plateformes numériques aussi, hein. Caféine, Itress, Ilion, Publica, Youbox, enfin voilà, on vous retrouve partout.
Eh bien merci et bonne chance, bon vent à votre magazine Liberty Mag, merci Christelle et Fad. Vraiment bon merci vent et bravo pour votre magazine.
Eh bien, pareil, on vous retourne le compliment pour
bravo.
Votre
émission. Merci, bravo. Allez, Liberty Mag, à ne pas manquer, allez vous le, évidemment, vous le procurer rapidement en version papier ou numérique. À très bientôt, chers amis Christelle et Fad, 19h14. Nous allons marquer la première pause pub et on se retrouve avec Pascal Boniface.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Les informés avec Adil Farkan.
Les informés, 19h20, nous sommes ensemble, le standard est ouvert, 01 53 48 3000. Tout de suite, exceptionnellement, c'est le Quad 9 de Pascal Boniface.
Les informés, le Quad 9.
Pascal Boniface, le patron de l'Eris, bonsoir mon cher Pascal.
Bonsoir Adil.
Plaisir de vous retrouver, je sais que vous étiez en déplacement à l'étranger. On vous retrouve...
Oui, je suis rentré ce matin, j'étais à Djibouti, c'est pour ça que j'ai pas pu être avec vous hier.
Absolument. Alors on vous écoute pour la signature de votre billet du Code 9.
Eh bien, je vous parlais un peu des gens qui, les faucons, ceux qui sont le clan des durs dans les relations internationales, ceux qui n'arrêtent pas de dire que c'est pas la peine de négocier, que ceux qui veulent négocier sont des faibles et qu'il faut plutôt privilégier l'option militaire. Là, ils critiquent ceux qui veulent trouver une négociation avec Poutine en disant on ne peut pas discuter avec Poutine, on ne peut pas lui faire confiance, c'est un dictateur, il ne faut pas de négociation. Mais si, et donc ils accusent ceux qui veulent toujours donner une chance à la diplomatie d'être des naïfs, d'être des irréalistes. Mais en fait, ce sont les mêmes qui nous disaient il y a des armes nucléaires, des armes de destruction massive en Irak, il faut faire la guerre. Ce sont les mêmes qui, à partir de 2005, qui disaient « Ah, l'Iran est à 6 mois de l'arme nucléaire, il faut vite bombarder l'Iran, sinon ça sera trop tard. » Et historiquement, c'était également ceux qui s'opposaient à négocier avec Gorbatchev, parce que nous disait-il « Attention, Gorbatchev va nous duper, etc. » Alors bien sûr, je ne comparais pas Gorbatchev et Poutine. Mais en tous les cas, je veux justement dire par là, dans cette chronique, que c'est toujours plutôt, à mon avis, ceux qui veulent négocier qui sont les réalistes. Et ceux qui veulent toujours privilégier l'option dure, la voie militaire, la guerre, l'affrontement, qui se disent réalistes, en fait, eh bien, très souvent, ont manqué le train de l'histoire, parce que l'histoire aura simplement donné tort. Il ne fallait pas bombarder l'Iran en 2005, et ceux qui nous disaient que l'Iran était à 6 mois de l'arme nucléaire, nous sommes en 2022, l'Iran n'a toujours pas l'arme nucléaire, il fallait évidemment ne pas faire la guerre en Irak, et il fallait évidemment négocier avec Gorbatchev. Et donc il faut évidemment, sans avoir trop d'illusions, négocier avec Poutine, ne pas fermer la porte de la négociation,
oui,
parce qu'il n'y a pas tellement d'alternatives. Et donc en fait, le vrai réaliste, c'est ceux qui veulent justement négocier, ceux qui veulent, ils sont pas, c'est pas eux les naïfs. Et ceux qui se trompent, c'est ceux qui ont toujours voulu privilégier l'approche dure, parce que bien des fois, dans l'histoire, ils ont leur politique a conduit à des catastrophes. Ceci étant, ça ne les gêne pas du tout, parce que ceux qui ont été pour la guerre d'Irak continuent à venir sur les plateaux de télévision pour délivrer leurs bonnes paroles, et normalement, on devrait quand même les écouter avec un peu moins de déférence.
Et vous avez bien raison, c'est vrai, quand on a ce regard-là, et ça nous pousse à se poser de vraies questions. Effectivement, il y a des choses qui interrogent. Merci, mon cher Pascal Boniface, on vous retrouve jeudi prochain, comme chaque jeudi d'ailleurs, pour votre signature du Code 9. Merci, très bon week-end d'ailleurs.
Merci Adil, bon week-end à tous.
Bon week-end Pascal Boniface, le patron de l'IRIS.
Les informés, le Code 9.
Le face-à-face, c'est parti.
Les informés. Le face-à-face.
Jimmy Dalidou, bonjour. Bonsoir. Comment
bonsoir
ça va?
Bonsoir plutôt. Bonsoir tout le monde.
Vous êtes seul face à vous-même?
C'est un peu vide avec la grève des métros, etc. Là, c'est un peu compliqué apparemment.
Ouais, très compliqué.
Ils ont frappé fort les collègues aujourd'hui encore.
Vous savez que j'ai eu beaucoup de retours vous concernant, vous. Hein, vous commencez à être apprécié des auditeurs. Hein. Attention.
Ça me fait plaisir en fait. Moi, je dis ce que je pense, puis ensuite l'opinion publique décide. Hein. Enfin, se fait son
Jimmy
avis.
Jimmy Dalidou, qui est syndicaliste CGT, mais également auteur. On a au téléphone avec nous Emmanuel Dupuis, qui nous a planté à deux reprises. Bonjour Emmanuel.
Oui. Allô. Bonjour Adil.
Oui. Bonjour.
Ah, je suis vraiment désolé. Alors, donc c'est.
Vous nous avez planté hier, vous nous avez planté aujourd'hui. En fait, vous avez décidé de nous planter, vous. Ça y est, vous serez plus le bienvenu ici, hein.
C'est méchant, je le prends pas comme tel, bien sûr, je rigole.
Non,
malheureusement, malgré la meilleure volonté du monde, j'ai dû planter toutes les émissions. J'étais sur une chaîne concurrente juste avant et malheureusement, j'ai dû le faire par téléphone car, évidemment, je confirme que c'était une sacrée galère aujourd'hui.
Hamid Chriette est également avec nous. Bonsoir, Hamid. Hamid Chriette, vous êtes avec nous? Bon, on va tenter de le récupérer. Messieurs Emmanuel Dupuis et Jimmy Dalidou.
Bonsoir
Emmanuel. Premier sujet, Anne Hidalgo qui commence à frapper fort, à cogner dur auprès de Ségolène Royal, qui dit ne pas être d'accord avec elle. Bon, jusqu'ici, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas un peu la guéguerre, là, d'abord entre elles et puis au niveau de la gauche, là, Emmanuel Dupuis?
Oui, alors ça a toujours été la guerre entre elles, hein, il faut avoir ça à l'esprit. Même quand Ségolène Royal...
Bon, mais là, ça tacle fort, hein.
Oui, mais je rappelle quand même aux éditeurs que quand Ségolène Royal était candidate contre Nicolas Sarkozy, je n'ai pas vraiment entendu Anne Hidalgo, qui n'était pas encore maire de Paris, soutenir très activement la candidate, là pour le coup, unitaire du PS. Évidemment, les noms d'oiseaux sont sortis, mais je crois aussi qu'il faut avoir à l'esprit que Ségolène Royal est une grande, un oiseau migrateur, qui passe très souvent d'une famille politique à l'autre. Et que si une lutte était la candidature de Anne Hidalgo, elle aurait bien voulu elle-même partir. Mais évidemment, le sort en a décidé autrement.
Vous y croyez vraiment à ce conflit,
Jimmy Dalidou?
Tu crois vraiment que c'est un véritable conflit ce qui se passe? Et que c'est ça plutôt pas, on n'aurait pas plutôt à faire un jeu politique.
Alors Jimmy Dalidou,
ce qu'il faut comprendre dans ce qu'elle a dit, dans ce que Hidalgo a dit par rapport à Mélenchon, et au-delà de leur des personnages qu'ils représentent, en fait ils représentent qui ils sont en fait, qui sont-ils? Il y a Hidalgo qui représente le Parti Socialiste, qui est un ancien parti du capital, un grand parti du capital, un grand parti des monopoles. Et qui était issu de ce qu'on appelle le bipolarisme, qui était la forme politique prise par la dictature du capital. C'est-à-dire bipolarisme politique, UMP, PS à l'époque, qui se partageaient la politique. Il ne faut pas croire que l'UMP et le PS à l'époque représentaient c'était deux idées, mais représentant une seule classe sociale, la classe des plus riches. Ça, ça s'est cassé la gueule. Donc le PS, parti des monopoles, lui, il en a encore dans le, il en a encore dans le caleçon. Il va encore y aller. Pour ça, pour se redorer le blason, pour qu'il y ait une régénération politique, le Parti socialiste s'appuie sur, et c'est là qu'il faut comprendre le lien entre le Parti du Capital PS et la social-démocratie représentée par Mélenchon. Mélenchon est le véritable social-démocrate politique français. C'est pour ça qu'on le positionne à gauche. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que
il grimpe dans les sondages d'ailleurs.
Ah, c'est pas pour rien qu'il grimpe dans les sondages.
Ah non, mais là,
le PS ont compris que s'ils veulent régénérer le Parti socialiste, il faut qu'ils prennent appui sur la social-démocratie.
J'ai cru entendre
matérialisée
la
par Mélenchon et la France insoumise.
Emmanuel Dupuis, oui.
Oui, comme on m'a coupé dans ma...
Ah bon, on n'a pas entendu, désolé, on n'a pas entendu.
Je vais quand même réagir. On peut difficilement dire que Jean-Luc Mélenchon est social-démocrate, car la social-démocratie, c'est précisément ce qu'il récuse absolument. Qu'il soit progressiste ou qu'il soit réforme... La social-démocratie, je précise...
C'est une contradiction entre la vieille social-démocratie et la nouvelle social-démocratie.
Oui, d'accord, mais la social-démocratie tout court, c'est pas lui qui l'incarne, c'est plutôt le centre-gauche.
Ah, Emmanuel, c'est quoi l'essence de classe de la social-démocratie, Emmanuel ? Parce que moi, je vais te dire, pour moi, l'essence de classe de la social-démocratie, c'est quoi ? Parce que quand les auditeurs comprennent bien, je m'excuse auprès d'eux, c'est quoi la social-démocratie ? La social-démocratie, c'est une... L'essence de classe de la social-démocratie, c'est de faire le lien entre les couches populaires, d'accord ? Leur boulot aux sociodémocrates, c'est de capter la classe ouvrière, les couches populaires, pour les rabattre vers les grands partis du capital. C'est ça, la social-démocratie.
Donc, peut-être qu'Emmanuel Dupuis ne partage pas. Emmanuel Dupuis ?
Alors, j'ai du mal à voir en quoi Jean-Luc Mélenchon est en train de faire ça, puisque justement, c'est précisément ce qu'il récuse.
Ben, il récuse parce que lui, c'est la nouvelle social-démocratie en montant.
Ça veut dire quoi, la nouvelle et l'ancienne ?
Bah, tu vois bien que Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise, déjà au départ, se positionnaient à gauche de la gauche, et puis en fur et à mesure, ils basculent toujours en plus à droite. Et il devient un peu le gauchiste de la bande.
Moi, je ne partage pas du tout.
On voit bien.
Alors, justement, c'est le lieu de ne pas partager les lieux. Emmanuel Dupuis, Jimmy Dalidou, attendez, s'il vous plaît. Je voudrais juste qu'on entende aussi également Ahmed Chriet. Ahmed Chriet, bonsoir.
Bonsoir, comment allez-vous ?
Très bien, très bien.
Salut Hamid.
Malheureusement, je n'ai pas pu être dans les studios car il y a eu malheureusement une grève.
Un peu comme Emmanuel Dupuis, oui, effectivement. Alors on vous écoute.
Écoutez, c'est très simple. La social-démocratie, c'est un courant politique qui date du 19e siècle, tout simplement, et qui est effectivement un courant politique qui s'appuie sur des éléments du socialisme dans une économie capitaliste et libérale. Mmh. Souvenons-nous, l'appellation de social-démocratie a été en France, en tout cas, employé par François Hollande pour définir sa politique. Mmh. Et je rejoins effectivement les propos de Jimmy. Le Parti socialiste, en réalité, s'est couché aujourd'hui face au libéralisme et au capitalisme, et il a délaissé les classes sociales. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon ont récupéré effectivement la couche sociale populaire.
Oui.
Et donc aujourd'hui, on est dans une configuration avec un Parti socialiste qui est en faille. Zemmour un tout petit peu, mais Zemmour s'exprime plus sur le bloc bourgeois de droite. Mais en tout cas, si vous voulez, aujourd'hui, les classes populaires aujourd'hui ont été délaissées par le Parti socialiste avec plus de 40 ans de trahison, depuis effectivement avec Mitterrand et Georges Marchais notamment, l'alliance qui a été faite et la trahison avec le tournant de la rigueur sous Rocard.
C'est pareil.
Tout nouveau, oui, oui. Exactement. Donc, oui.
Non, Rocard, c'est
Rocard.
Rocard, c'est Rocard, respectons le personnage.
Et d'ailleurs, le Parti Socialiste fait beaucoup boire du Ricard aux Français depuis 40 ans. Il faut pas faire un jeu de mots.
Allez, messieurs.
En tout cas, oui. Voilà, en tout cas, aujourd'hui, on voit très bien cette configuration-là. On voit que les classes populaires ont été délaissées par ce Parti Socialiste-là. Aucune diversité, aucun enjeu sur la question des banlieues, sur la question de la diversité, sur la question de l'islamophobie, Madame Hidalgo ne parle pas, et voyons sa gestion aujourd'hui catastrophique à Paris. Je pense que Madame Hidalgo devrait prendre une retraite anticipée, clairement. Je crois qu'aujourd'hui, l'âge de la retraite, elle le propose à quel âge l'âge de la retraite ? 55 ans, 58 ans, donc elle devrait prendre sa retraite, et puis aller...
Voilà. Ça y va fort, messieurs, nous allons nous retrouver justement pour continuer de débattre, échanger vos points de vue, vous justement, cela diverge, et tant mieux, c'est une très bonne chose. 19h30, c'est parti pour le Quoi de Neuf.
Les Les informés, le Quoi de Neuf.
Le Quoi de Neuf, vous le savez, pour clore cette semaine, c'est comme chaque vendredi. Chaque vendredi, c'est avec une signature qui s'appelle Michel Taube. Bonsoir Michel Taube.
Bonsoir Adil Farkan et bonsoir à tous les auditeurs de Beurre FM.
Eh bien, vous êtes éditorialiste sur les, dans les différents médias, mais également aussi le patron fondateur donc de Opinion Internationale, le magazine, le média en ligne. On vous écoute, mon cher Michel, pour la signature du Quoi de Neuf en parlant justement de la gauche.
Absolument. Et peut-être dans le prolongement de ce qui vient d'être dit, moi je pense que d'abord, je pense que rien n'est joué pour l'élection présidentielle. Rien n'est joué. Je pense que le suspense sera très intense jusqu'à au dernier jour, le jour du vote, le 10 avril, et qu'à 20h, on aura peut-être des surprises. Ça, c'est le point de départ. Le deuxième point, c'est que je pense que les sondages se trompent, comme souvent ils se sont trompés ces dernières années sur de très nombreuses élections. Donc, ma conviction la plus profonde, c'est que Emmanuel Macron, Marine Le Pen, qui était donné comme qualifié d'office au deuxième tour depuis des années, sont surcotés dans les sondages.
Ça, c'est vrai.
Le dernier point qui m'amène au sujet du jour, qui est Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon.
Oui.
Moi, je ne suis pas de son bord, et souvent dans mes éditoriaux à la Ligue d'Opinion Internationale,
on la connaît.
Mais je pense qu'il est en train, de semaine en semaine, de s'imposer comme étant le candidat.
Ah ben là, je vous l'accorde.
De la gauche.
Ah, mais je vous l'accorde, c'est vrai.
Et donc, paradoxalement, tout le monde est tombé sur la tête de Ségolène Royal lorsqu'elle a dit le vote utile à gauche, c'est de voter Jean-Luc Mélenchon. Bien sûr que c'était absurde de sa part puisqu'elle venait de la gauche social-démocrate, mais elle n'avait pas tout à fait tort parce que, effectivement, Jean-Luc Mélenchon est peut-être le seul aujourd'hui qui peut espérer. J'ai envie de dire réunir un vote utile à l'extrême gauche pour essayer d'exister. Et un point qui est très important, dans les derniers sondages qui sont sortis, Jean-Luc Mélenchon, il est qu'à 4%, il est à 11% à peu près. On peut considérer que ça peut se jouer, alors Emmanuel Macron est qualifié au deuxième tour, celle ou celui qui sera son challenger au deuxième tour. Ça va jouer autour de 15-16% au premier tour. Qui a aujourd'hui 15-16% dans les sondages? Il y a Marine Le Pen, il y a peut-être Éric Zemmour, il y a Valérie Pécresse, mais elle baisse beaucoup. Et Jean-Luc Mélenchon, s'il continue à augmenter un petit peu de semaine en semaine, il peut peut-être se rapprocher de cette barre fatidique qui était 15-16%. Et donc, je pense que rien n'est encore joué. S'il arrive à maintenir une certaine dynamique. Je veux dire, il a pour lui, et encore une fois, moi je ne suis pas vraiment sur ses positions, mais il a pour lui, je trouve, une position claire. Éric Zemmour, c'est la droite nationaliste. Éric Zemmour, c'est la dénonciation de l'islamisme, c'est l'immigration, etc. Au moins, Jean-Luc Mélenchon, lui, il est clair face à Éric Zemmour. Et il lui oppose, par exemple, le concept de créolisation. Et je pense que il a certaines positions, Jean-Luc Mélenchon, qui ont la force de la clarté et du courage aussi à certains égards. Et donc je pense que, contrairement à Anne Hidalgo, à Christiane Taubira, à Yannick Jadot, dont on a du mal à voir la colonne vertébrale, lui il en a une, et je pense que ça peut lui laisser espérer, comme je l'écris dans mon édito ce soir, à rêver, à pouvoir essayer de se rapprocher du deuxième tour. Je pense que ça va être très difficile, mais ça n'est pas impossible, et que de plus en plus de citoyens de gauche, vous savez, les 450 000 qui ont voté à la primaire citoyenne et beaucoup d'autres, vont peut-être se dire, en se rapprochant du 10 avril, ah ben finalement, on veut quand même donner une chance à un candidat de la gauche d'être au deuxième tour, et ben du coup, on va voter pour celui qui est peut-être le moins mal placé, et qui est dans une certaine dynamique, et ça pourrait être Jean-Luc Mélenchon. Donc voilà un peu mon sentiment en ce moment, après... ce n'est qu'une opinion.
D'abord, j'ai envie de vous dire bravo pour cette analyse, et vous avez le droit à plusieurs clochettes. Non mais c'est vrai, attendez, vous nous avez livré là un excellent billet d'humeur. Merci mon cher Michel Taube.
Merci.
Parce que je partage ce que vous dites, je partage vraiment.
C'est vrai ?
Je le partage, je rarement dis évidemment dis que je partageais vos billets d'humeur, mais là j'accorde évidemment cette pertinence qui est évidemment très proche de la réalité. Je dois le reconnaître. Michel Taube, je vous souhaite un excellent week-end.
Il faut absolument que Jean-Luc Mélenchon vienne à votre micro pour...
Mais c'est prévu, ça y est. C'est prévu.
Ok, merci.
Merci, à très bientôt, Michel Thau, bon week-end. Qu'est-ce qu'il y a, Jimmy Dalidou?
Ouais, est-ce que je peux vite faire intervenir par rapport à ce qu'il a dit?
Rapidement, tu dois lancer la pub, là.
Ouais, bah, allez-y, non, juste, c'était juste pour redéfinir extrême-gauche, gauche et nationalisme, en fait. Parce que c'est vraiment... Moi, pour vous parler franchement, ça me gave un peu de faire cette confusion entre l'extrême-gauche et la gauche. Non, il y a la gauche qui est intégrée dans le dynamisme du capital et l'extrême-gauche qui est anticapitaliste. Et Zemmour n'est pas un nationaliste, c'est un néo-fasciste. Mmh. Arrête, n'ayons pas peur des mots.
Utilisons les
bons termes. C'est pas un nationaliste, c'est un fasciste. Mmh. Même si le nationalisme est la forme embryonnaire du fascisme,
bon.
Évidemment.
Bon. Merci Michel. À bientôt. Allez, on va marquer la pause, pub, la dernière. Et on se retrouve avec Emmanuel Dupuis, Amine Chriette et Jimmy Dalidou.
Les informés reviennent dans un instant. Peur FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
19h-20h, nous sommes ensemble, dernière ligne droite justement, jusqu'à 20h. Je sais que je reçois pas mal de messages concernant donc les transports en commun. Effectivement, je vous souhaite bon courage, accrochez-vous, on va parler des convois de la liberté. Où en est-on aujourd'hui? Est-ce qu'il existe encore ce convoi de la liberté? Est-ce qu'il n'a pas fait pchiter tout simplement? Est-ce qu'il s'est laissé décourager tout doucement Jimmy Dalidou, ensuite Emmanuel Dupuis, ensuite Amine Chriette?
Oui, alors, convoi de la liberté, il y a trois choses importantes. Alors, on en avait déjà parlé la première fois, mais c'est important de remettre en exergue le fait que le convoi de la liberté, c'est une idée. C'est l'idée de l'égalité sociale, l'idée d'émancipation, l'idée, etc. Je sais que ça paraît un peu utopiste, etc. Mais c'est la réalité, c'est la vie dans laquelle, c'est notre vie. C'est-à-dire, on est des exploités, on a du mal à boucler les fins de mois, et à un moment, on va dans la rue. Ce sont les luttes sociales. Donc, cette idée prend différentes formes sociales. Et il a pris une forme sociale il y a quelques temps qui était les gilets jaunes, et maintenant, c'est le combat de la liberté. Si ça fait pitch, c'est pas grave, ça prendra une autre forme. Ensuite, je dirais, ça a fait picht, mais pas par rapport à l'idée justement que ce mouvement a véhiculé. C'est la répression féroce que subit le convoi de la liberté. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais depuis le début, toutes les manifestations sont interdites. Oui. C'est des amendes qui tombent, c'est des gars qui partent en
marche. On a Jérôme Rodriguez, une figure médiatique du mouvement des Gilets jaunes, qui a été arrêté en pleine manifestation,
tout à fait,
là,
par exemple.
Du convoi de la liberté.
Par exemple. Oui. C'est-à-dire que, en fait, à partir du moment où il y a une manifestation qui est, qu'il y a un appel à la manifestation, ils envoient des chars.
On va écouter le point de vue de vos collègues.
Ouais, pas de souci.
Emmanuel Dupuis dans l'ordre et Amine Chriette. Emmanuel Dupuis.
Alors, si on pouvait ne pas m'interrompre cette fois-ci, j'apprécierais. Parce que le principe c'est du débat, c'est qu'on puisse entendre chacun dans sa plénitude de son propos. Alors, moi, je ne ferai pas de relecture sociale ou sociologique des différents mouvements par rapport aux Gilets jaunes et le mouvement donc du convoi de la liberté. Je ferai par contre une comparaison entre le convoi de la liberté au Canada et le convoi de la liberté en France. Alors il faut avoir à l'esprit qu'au Canada, il perdure, alors qu'en France, il a effectivement un peu fait vite. Justement parce qu'il était beaucoup moins structuré que l'était le mouvement des Gilets jaunes. En fait, ce qui se passe au Canada, c'est le mouvement des Gilets jaunes, avec précisément une corrélation des luttes, une volonté de s'exprimer à travers la reprise en main du gouvernement central. Je rappelle que c'est un État fédéral et qu'il y avait une liberté fédérale et c'est le gouvernement Trudeau qui a essayé de reprendre en main en imposant donc la vaccination obligatoire et notamment vis-à-vis de camionneurs. Et ce qui avait motivé en 2018, à partir de novembre 2018, les Gilets jaunes se trouvent un peu cristallisés dans cette volonté et de liberté individuelle et évidemment de lutte contre la cherté de la vie quotidienne et bien évidemment, sans doute avec d'autres ressorts, une opposition à l'augmentation donc de la taxe sur les produits pétroliers. Je rappelle que ce sont des camionneurs. Alors que là, en l'occurrence, c'était un mouvement assez hétéroclite, donc le convoi des libertés français, un mouvement assez hétéroclite qui était basé intégralement sur les appels à manifester venant de différentes directions. Florian Philippot d'un côté et de l'autre, effectivement, les anciens Gilets jaunes qui avaient tenté de se remobiliser.
Donc, idéologiquement parlant, hétéroclite.
Si vous voulez.
Hétéroclite sur le plan idéologique, mais pas dans un sens de classe. C'est la classe ouvrière, les couches populaires et la classe moyenne qui sont dans la rue. Toujours.
D'accord,
parce que c'est elle qui trinque.
D'accord, mais encore une fois...
Écoutez-vous, s'il vous plaît.
Écoutez-moi et ne m'interrompez pas.
Non, mais quand on touche 200 euros par mois et que tu ne parles pas de la liberté fédérale...
Juste sur ce moment-là. Le principe des informés, c'est aussi de débattre, de confronter son point de vue. C'est pas nous. Non, mais sinon, c'est plus un débat, les amis. Sinon, dans ce cas-là, c'est une conférence.
Non, mais va voir les gilets jaunes sur le combat de la liberté. Le gars qui touche 700 balles par mois, qui a du mal à payer son loyer et à remplir le frigo, et par lui, la liberté fédérale. Tu vois ce qu'il va te dire? Il va te dire, j'en ai rien à faire de ta liberté fédérale.
Je crois,
parce que je veux, c'est bouffer à la fin du mois et payer mon loyer. C'est ça qu'il va te dire.
Vous ne m'entendez pas. Je crois, mon cher, que vous ne m'entendez pas et que j'ai dit précisément ceci. Je n'ai fait qu'une comparaison entre la dureté de la vie au Canada et l'expression de cette dureté en France qui ne prend pas les mêmes ressorts. Après, vous avez sans doute raison parce que vous êtes plus intelligent.
Non, c'est pas ça, c'est que la France, c'est une dictature du capital frais.
Attendez, laissez-le finir. Jimmy Dalidou, laissez-le finir. Finissez parce qu'on doit entendre la mitriette. On doit entendre la mitriette.
Je reconnais la dialectique syndicale.
Dialectique matérialiste, s'il te plaît.
Je n'en partage pas.
Amit Shriyet, alors, on vous
oui,
écoute.
Écoutez,
et si vous ne la partagez pas, tant mieux, Emmanuel Dupuy, parce que c'est le lieu. Le lieu, c'est de, confronter son point de vue, encore une fois, et de débattre. C'est très important, j'y tiens absolument, c'est notre ADN ici.
Dites-le à tous vos intervenants.
Tous le savent. Et Amit Shriyet.
Merci de me donner la parole. Écoutez, je pense qu'effectivement, aujourd'hui en France, notre pauvre pays aujourd'hui vit une crise sociale sans précédent. Et les mouvements sociaux aujourd'hui peuvent s'expliquer en particulier par cette crise aujourd'hui sociale et économique qui ternit notre pays. Je crois qu'aujourd'hui, toute condition ou toute, je dirais, justification d'un mouvement est prétexte à manifester. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ces mouvements-là qui sont dans la rue, effectivement, on ne peut pas comparer le mouvement avec celui du Canada et celui d'en France. Ce sont deux mouvements différents, deux histoires qui sont différentes. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a effectivement un grand malaise social et toute, aujourd'hui, revendication contre la classe politique française de façon globale est un prétexte aujourd'hui pour les citoyens français de manifester. Il y a aujourd'hui une situation qui est incontrôlée par la classe politique française, qui ne représente plus effectivement le peuple français. On voit bien que la 5e République est à bout de souffle. On voit bien aujourd'hui que les dividendes, effectivement, sont à foison. La France est le premier pays européen, notamment sur la question j'en perds mes mots, mais...
Ça va revenir, voilà. Continuez, ça va revenir. Ne faites pas un blocage là-dessus.
Voilà, je perds mes mots. Mais en tout cas, si vous voulez, aujourd'hui, nous avons une situation qui est tellement aujourd'hui alarmiste que le gouvernement aujourd'hui, effectivement, ce gouvernement-là ne contrôle absolument plus rien. On nous parle de passeport vaccinal. Ce passeport vaccinal-là va être supprimé au mois de mars. Donc, vous voyez bien, nous sommes dans une situation réellement incongrue face à ce gouvernement-là. Aujourd'hui, il n'y a personne qui, en réalité, représente aujourd'hui le peuple français. L'abstention bat des records. Et donc, nous vivons une véritable crise démocratique et institutionnelle dans notre pays.
Merci.
Et je crois que pour résoudre cette crise-là, nous allons avoir, et je vous le dis, dans les prochaines années des mouvements sociaux qui seront encore...
On doit avancer, mon cher ami Triet, 19h47. Je veux absolument qu'on finisse avec ce sujet concernant Rachida Dati, qui commence d'ailleurs à passer un coup de gueule. Elle est ulcérée par Valérie Pécresse. Elle dit cette déclaration, c'est comme si j'étais Rachida, la femme de ménage. Jimmy Dalidou, qu'est-ce qu'elle veut dire par là et pourquoi elle...
Franchement, ouais, non, mais en fait, c'est une petite, je dirais que c'est une bataille interne. Encore une fois, je reviendrai sur un principe de base, pour moi, qui reste un principe de base, ne pas confondre les oppositions à l'intérieur d'une classe avec les oppositions entre classes. Donc, après, que ça se passe entre eux.
De ça.
Voilà, non, mais je veux dire, non, mais c'est une bataille de petits chefs.
C'est quoi ça? C'est
en fait,
comme si j'étais la femme de ménage.
Bah, je pense qu'elle elle est peut-être un petit peu jalouse de ce que représente ses camarades, peut-être. Mais en tout cas, ce sont des personnes qui ont l'habitude de dominer, d'exploiter, donc ils sont assez opportunistes, assez jaloux.
Arrêtez de dire ça. Emmanuel Dupuy, je vous écoute.
Qui ont des bouquets de fleurs un peu plus jolis que les autres. Ils sont
Emmanuel Dupuy, quelle est votre analyse?
Ben,
elle est radicalement différente de ce que je viens d'entendre.
Ben, j'espère.
Premièrement, parce que je suis cette campagne de l'intérieur, comme vous le savez, vu que notre famille politique soutient la famille républicaine. Il ne faut pas minorer des prises de parole des uns et des autres. Elles sont, je crois, assez conformes à l'humanité des uns et des autres. Et je pense que c'est un peu spécieux, un peu cavalier de dire que tout ça, c'est des guerres internes. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. Le problème de la campagne que nous avons, et Valérie Pécresse, et malheureusement une candidate qui est sortie vainqueur d'une primaire interne, mais constitue une partie de la droite et pas la totalité de la droite. Et c'est là le problème, c'est qu'une partie de cette droite qui, je crois, mérite en tout cas d'exister sur, dans notre vie politique, en tout cas une vision de la, du républicanisme tout court, et donc du mouvement libéral ou du mouvement centriste que je représente,
ouais.
Avec évidemment...
Mais pourquoi Rachida Dati, Emmanuel Dupuis, elle dit, elle fait cette déclaration? Moi, c'est comme si j'étais la femme
parce
de... Ah, parce
vrai.
Que c'est vrai, oui.
Ben oui, parce que c'est vrai, et si vous m'aviez autorisé à finir ma phrase, j'aurais conclu à mon idée en mettant en avant le fait qu'il y a dans cette campagne présidentielle, sans doute, une majorité qui ne tient pas compte des divergences ou des diversités ou de la minorité. C'est vrai dans toute famille politique, et ça arrive chez les Républicains, comme ça pourrait arriver dans d'autres familles politiques.
Ah, il pense du surtout à leur portefeuille.
Jean-Luc Mélenchon.
Allez-y, non, continuez Emmanuel Dupuis, s'il vous plaît.
Entre Jean-Luc Mélenchon, qui incarnait une certaine forme de républicanisme laïque, et le mouvement des identitaires, il y a aussi cette ligne de fracture. Certains ont quitté les Insoumis, précisément parce que la ligne originelle de ce qu'était le mouvement citoyen incarné par Jean-Luc Mélenchon il y a 5 ans a un peu dévié. Donc c'est vrai que c'est dans chaque famille, il y a des petites guerres picrocolines comme on dit, mais je crois qu'il ne faut pas les minorer.
Absolument.
Il ne faut surtout pas dire que c'est anecdotique.
Ahmed Friette, on vous écoute.
Écoutez, ce qui a montré effectivement lors de la primaire et des résultats, on voit bien que ce qui a été mis en évidence, c'est une sorte d'extrémisation de la droite. Aujourd'hui, nous n'avons plus en réalité de droite dans le paysage politico-français. Nous avons des extrêmes droites, à travers effectivement, notamment Valérie Pécresse, qui reprend effectivement les déclarations. Souvenez-vous, lors de son meeting, elle a parlé du grand remplacement. Elle a parlé du grand remplacement. Donc il va falloir maintenant le dire de façon claire. Il n'y a plus de droite républicaine en France.
Je ne suis pas sûr que Emmanuel Dupuis partage ce point de vue.
Attendez, il n'y a plus de droite. On parle du grand remplacement.
Non, mais si on vous écoute, les gars, c'est qu'il y a une opposition entre eux. Non, mais en fait, ce que vous n'avez pas compris, c'est qu'il y a une seule classe sociale qui prend des formes politiques différentes. C'est ça que vous n'avez pas compris.
C'est que ce soit la droite ou l'extrême droite. Il nous reste 2 minutes avant de rendre l'antenne. S'il vous plaît, 2 minutes.
Je peux terminer mon propos. Donc, il y a aujourd'hui des extrêmes droites, en réalité, qui, aujourd'hui, partagent sur de nombreux sujets, notamment la question de l'identité, la question du remplacement, sur la question de l'Union européenne. Donc, on voit bien aujourd'hui que le spectre politico-français est le même. La droite n'existe plus en réalité. Et on voit très bien que Éric Zemmour incarne aujourd'hui le leadership de cette extrême droite.
Alors, Hamid, attendez, voilà. Je voudrais entendre quand même Emmanuel Dupuis réagir. Emmanuel Dupuis.
Déjà, j'aimerais bien qu'on définisse l'extrême droite et la droite. Moi, je connais un mouvement conservateur, un mouvement républicain, un mouvement qui partage un certain nombre de
principes. Je connais des voleurs.
Attendez, laissez-le finir, s'il vous plaît.
Moi, je connais aussi... Ouais, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi?
Ça fait quand même...
Non, c'est vrai, c'est vrai. Non.
Les Français sont
volés. Jimmy Dalidou, arrêtez. Emmanuel Dupuis. C'est vrai, il ne faut pas dire des voleurs.
Je trouve ça...
Non, ils ne veulent pas... Ils forcent les gens à donner...
Non, on ne peut pas dire des voleurs. On peut pas. Laissez Emmanuel Dupuis.
Bon, alors... Donc, nous sommes tous des voleurs à droite et la vertu...
Ouais, les politiciens actuellement sont tous des voleurs.
Le débat est clos.
Mais en même temps, je ne suis pas là pour défendre une famille politique ou une autre, mais juste rappeler qu'il y a quand même au sein du corps électoral français une majorité d'électeurs qui se situe dans le camp de la conservation, une minorité qui se situe dans le camp du progrès, c'est comme ça.
Eh bien,
si vous en doutez, allez lire les études donc faites par le CIVIPOF qui le prouvent. Qu'il y ait un manque d'incarnation de cette réalité.
Merci, messieurs.
Sociopolitique, oui, bien sûr, mais de là à dire qu'il n'y a plus de droite au profit d'extrême droite est tellement.
Merci, messieurs.
Que je peux réagir.
Merci, messieurs. On n'a plus le temps, mon cher ami, on n'a plus du tout le temps. Je suis désolé, Amit Chriette. Merci, Amit Chriette. À très bientôt.
Regardez en tout cas le meeting de Valérie Pécresse quant à la cité de grand remplacement. Voilà.
Merci, Emmanuel Dupuis. Merci, Jimmy Dalidou.
Mais de rien.
À la réalisation, c'était Giovanni. Merci à vous. Je vous souhaite un excellent week-end. On ne lâche rien. À lundi prochain. Ciao.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.